Bonsoir, entrons ensemble dans un tendu débat consacré ce soir au productivisme agricole. À l'ordre du jour ce soir, assiste-t-on au retour du rêve productiviste? Depuis le début de la crise agricole, le président, le premier ministre, le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture ont parlé de réarmement agricole, de production, de puissance pour évoquer l'agriculture française. Un discours qui rappelle celui du général de Gaulle et son ministre Edgar Pisani qui, avec l'aide des jeunes agriculteurs des années 60, avait bâti la politique agricole du pays dans une Europe en construction. Pourtant, depuis la PAC, sa réforme, l'entrée des pays d'Europe du Sud, puis d'Europe centrale et orientale dans l'Union européenne, les traités de libre-échange, le développement de l'agriculture paysanne, le pacte vert et sa contestation ont profondément transformé le paysage national et européen, renvoyant les années 60 à un passé lointain. Que signifie donc productivisme aujourd'hui? En quoi celui-ci est-il différent de la modernisation agricole d'il y a 60 ans? C'est la question que nous allons poser à nos trois invités, à Cécile Détendescendre. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, directrice de recherche à l'INRAE. Vous avez co-dirigé avec Hervé Guyomard l'ouvrage « Quelle politique agricole commune demain ?» aux éditions Quae. Avec nous également en studio, Mathieu Calame, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ingénieur agronome de formation, vous dirigez la fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès de l'homme et vous suivez pour cette fondation les questions agricoles et vous êtes auteur notamment de « Comprendre l'agroécologie chez ECLM et la révolution agroécologique, se nourrir demain ». Au seuil, c'était l'année dernière. Et notre troisième invité à distance est François-Xavier Huppin. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes agriculteur dans le Calvados, secrétaire général adjoint du syndicat Jeunes Agriculteurs, peut-être un peu fatigué au lendemain du salon. Vous produisez des céréales, du lin que vous distribuez à la coopérative et du maraîchage en vente directe.
C'est dans les années 50-55 que la mécanisation a commencé à se faire. Et qu'aussi la migration rurale a commencé. En 61, il ne s'agissait pas d'inverser une tendance, mais plutôt d'accepter ou de favoriser son accélération. Et donc, le problème a été de se faire une idée, d'avoir un schéma d'organisation qui permette de produire plus avec moins de gens, parce qu'il était évident que la mécanisation ne se ferait pas dans des fermes très petites et que donc le rendement à l'hectare ne serait accru que si les fermes atteignaient un certain degré. Et donc, un peu aveuglément, je l'avoue aujourd'hui, nous avons délibérément foncé vers la modernisation de l'agriculture. Je dis un peu aveuglément, car nous ne mesurions pas que l'effet serait tel et que la migration rurale atteindrait un tel rythme.
Cette voix de Stentor, c'était celle d'Edgar Pisani que j'avais eu la chance d'enregistrer en 2009 pour la Fabrique de l'Histoire sur France Culture, ancien ministre de l'Agriculture du général de Gaulle. Il a présidé de 1961 à 1966 ce qu'on a appelé la modernisation agricole. Il dit qu'effectivement, il ne s'agissait pas d'inverser une tendance, mais de l'accélérer. C'est bien ce qui s'est passé dans les années 1960, d'après ce que j'ai cru comprendre et cru lire, Cécile Détendescendre. Et effectivement, cette productivité des années 60 reste toujours comme une sorte de rêve postérieur pour ceux qui, en tout cas, ont adhéré à ce changement de production parce qu'ils ont trouvé qu'il y avait là une sorte d'embellie pour l'agriculture et qu'on leur a donné une sorte de mission. Elle est encore répétée par les syndicats agricoles aujourd'hui, produire pour la France, produire pour l'Europe, produire pour le monde.
En fait, l'histoire nous enseigne, hein. C'est important de regarder ce qui s'est passé. Et donc, quand Mansholt dit « on va moderniser... »
Sico Mansholt, qui est le commissaire européen à l'agriculture.
Tout à fait. Quand il a dit et quand il a mis le plan Mansholt en route, c'était vraiment une modernisation pour nourrir l'Europe. Et il y avait un vrai contrat social entre l'agriculture à ce moment-là et la société française et européenne.
Il fallait faire partir les plus âgés à la retraite, si c'était possible. Il fallait faire du remembrement, voilà. Arracher les haies et faire en sorte que les jeunes agriculteurs qui commençaient l'agriculture à ce moment-là puissent bénéficier justement de plus grandes surfaces et d'une modernisation qu'elle est nécessité du matériel.
Le maître mot, c'était bien modernisation. Et dans la modernisation, c'était aussi productivité. On échangeait du capital contre du travail. Et donc, on avait cette volonté de productivité. Et ça a été quand même une formidable réussite. On discutait avant le début de l'émission.
Avec Mathieu Callum, qui est en studio avec vous. Oui.
On a diminué de 4 millions entre 66 et 80 le nombre d'agriculteurs dans l'Europe des 6, avec une augmentation massive des tailles des exploitations et une productivité, justement, qui a permis de nourrir l'Europe.
Je rappelle très régulièrement dans cette émission qu'à propos de cette histoire, eh bien, mon père faisait partie du club des 100 quintaux qui devait produire 100 quintaux à l'hectare. Aujourd'hui, on en est à combien quand on fait du blé? Est-ce qu'on peut savoir en une production normale? Vous allez peut-être pouvoir nous répondre, puisque vous êtes avec nous, François-Xavier Huppin. Quand on produit du blé, on fait combien de céréales à l'hectare?
Ça va entièrement dépendre du secteur où vous vous trouvez.
Mais chez vous, dans votre secteur, en Calvados.
Voilà, j'allais vous dire, moi, dans mon secteur, j'ai quand même la chance d'être dans des très bonnes terres agricoles. Nord Plaine de Caen sont encore mieux, mais les 100 quintaux, on peut les obtenir sans trop de difficultés. On va dire que c'est les aléas climatiques qui nous font changer, mais une année, on va dire, traditionnelle, c'est entre du 90 et 100 sans difficulté.
Oui, dans beaucoup d'autres endroits, les terres sont un peu fatiguées. On est plutôt descendu à 75 ou 80 quintaux après être monté très haut. Est-ce que, justement, c'est ce rêve-là, d'une certaine manière, qui peut tourner au cauchemar, Mathieu Callum, que vous regardez avec scepticisme?
Qui peut tourner au cauchemar, enfin ça dépend évidemment pour qui, hein, puisque l'un des problèmes, c'est qu'il n'y a pas consensus sur l'avenir, sur ce qu'il faudrait faire. Hein, tout le monde n'est pas perdant dans le système. Si tout le monde était perdant, je pense que on aurait changé de
système. On aurait changé de système, voilà. C'est ce que vous voulez dire.
Simplement, juste pour dire un mot, notamment par rapport à ce qu'a dit Edgar Pisani, il utilise le terme modernisation et je crois que ça a été l'heure. On a refusé d'utiliser en agriculture le terme industrialisation. Or, en réalité, on a fait à l'agriculture ce qu'on avait fait à l'artisanat au 19e siècle. Et quand on regarde ce qui s'est passé pour l'artisanat, ben on comprend bien que l'agriculture, qui avait été protégée avant la guerre de 14, qui a été très protégée à partir de 1880, enfin pour des raisons que Karl Polanyi explique très bien sur la grande transformation, il s'agissait de stabiliser la société. Mais après 45, on a décidé que c'était la destinée manifeste de nos sociétés de s'industrialiser. Donc l'agriculture aussi. Et les effets négatifs de l'agriculture qu'on voit notamment sur la biosphère sont effectivement le pendant des effets négatifs qu'on voit de l'industrialisation en général.
Et alors, quand vous dites, eh bien, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas véritablement à vos yeux, ça veut dire que ce rêve, et c'est pour ça que j'utilisais le terme de cauchemar, était un rêve évanoui d'une certaine manière, Mathieu Callum.
Oui, ben parce que globalement, vous comprenez bien qu'on a fait, grâce au tracteur, on a fait rentrer la machine dans les champs. Adam Smith, lui, pensait qu'on ne pouvait pas augmenter la productivité de l'agriculture parce qu'il n'avait pas imaginé le tracteur. Il voyait bien qu'on pouvait mettre les ouvriers autour de la machine. C'est l'industrialisation de l'artisanat. Il n'avait pas imaginé qu'on pouvait mettre la machine dans les champs. On l'a donc mise dans les champs et tout ça repose notamment sur la consommation d'un certain nombre de ressources naturelles. Donc la biomasse fossile, le pétrole, et vous voulez m'interrompre ?
Les
engrais azotés qui en sont issus, et on sait maintenant qu'il y a des limites planétaires, ça fait longtemps qu'on le savait d'ailleurs, et que si on continue à les outrepasser, ça va très mal se passer pour nous. Enfin là, je crois qu'il y a un consensus scientifique absolu. Mmh. Alors après, est-ce que la société a encore envie d'entendre le consensus scientifique ? Visiblement non.
Visiblement non, et du côté du gouvernement pas beaucoup plus. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce que disaient les ministres ou Marc Fesneau qui annonçait un réarmement agricole, Bruno Le Maire qui disait ça n'est pas Martine à la ferme, l'agriculture française c'est de la production, c'est de la puissance, il faut réagricoliser la France, ou encore effectivement Agnès Pannier-Runacher parlait en tant que ministre délégué à l'agriculture et souveraineté alimentaire, c'est une responsabilité que nous avons et c'est une manière de lutter contre le dérèglement climatique et contre les l'effondrement de la biodiversité. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces discours que vous avez beaucoup entendus? Et ça, ce sont les gens du gouvernement, mais il y a aussi ceux de l'opposition. De votre côté, François-Xavier Huppin.
Alors, ça peut rester que des discours, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont aussi vraies. Il y a des choses, moi, je peux entendre hein, le fait qu'il faut pas se dire qu'il faut ne rien changer. On est bien dans cette optique-là chez Jeunes Agriculteurs. On a dit et on l'a répété qu'on n'était pas contre les efforts des plans éco-climat et autres qu'il faudra faire, le préserver la biodiversité, puisque de toute façon la biodiversité, c'est quand même bien grâce à elle aussi que nos plantes et nos cultures arrivent à se développer, nos animaux aussi. Et c'est surtout nous redonner un cap et continuer à nous donner un cap. Alors là, on a beaucoup d'annonces, on a beaucoup de flux, de choses qui nous sont dites. Nous, on va dire que c'est bien pour gérer l'urgence, mais aujourd'hui, on aimerait un cap.
Alors, qu'est-ce que vous appelez un cap? Parce que c'est très important, parce qu'effectivement, ce rêve productiviste des années 60, on voyait très bien ce qu'on voulait faire. Il y avait quelques formules un peu choc d'Edgar Pisani ou du général de Gaulle. Et puis ensuite, on disait, ben voilà, on va devenir une puissance agricole pendant que la puissance allemande va devenir une puissance industrielle. On va être à la même hauteur qu'elle, mais on va produire autre chose. Ça, on voyait bien le cap, en tout cas, tel qu'il était présenté par les gouvernements de l'époque. Qu'est-ce que vous attendez d'un cap de votre côté en tant qu'agriculteur et secrétaire général adjoint du syndicat des jeunes agriculteurs, François-Xavier Huppin?
Des caps, il peut y en avoir des multiples. Hein. Il y a tout ce qui est sur l'écologie, mais moi je dirais que la principale chose qu'il va falloir aussi réussir à remettre en route en France, c'est bien de dire qu'il faut le terme de Monsieur le maire, déjà, je ne l'aime pas. Je trouve que c'est un terme qui est vraiment un gros mot.
Réagricoliser la France, c'est ça?
Voilà, je trouve que ce terme très, vraiment très moche. Et pour un ancien ministre de l'Agriculture, c'est dommage même. Mais faudrait, pour ça, peut-être commencer à relancer la recherche sur l'agriculture. Deux, trois chiffres comme ça, hein, de 250 millions de mis sur la recherche agricole par l'État. On a déjà à peu près 150 millions qui concernent le fonctionnement de nos structures, ce qui est normal. Hein, une structure ne fonctionne pas avec rien. C'est des mises en place de bases, d'essais et autres, donc obligatoirement, ça a des coûts. Lorsque le privé, lui, à côté, plusieurs privés mis ensemble mettent 1 milliard sur la table pour la recherche agricole. Nous, aujourd'hui, on veut bien changer, on le dit, on l'apprenait, le changement de logiciel. On fait venir de la protéine végétale de l'extérieur. On n'a aucun problème à ce qu'on nous dit. Demain, eh ben, il faut produire de la protéine végétale. Mmh. Mais aujourd'hui, on a beau essayer, il n'y a pas de recherche ou pas suffisamment de recherche fait sur cela. De la protéine, on en a fait avec la luzerne, mais c'est plus simple d'acheter du soja, c'est moins coûteux. Et tous les processus sont peut-être encore à faire évoluer. Il y a plein de choses, en fait, produire de la protéine végétale pour l'homme, ça suffit aussi.
Déjà, je vais demander à Cécile d'être en descente, parce que qu'est-ce que vous faites à l'INRA si vous ne produisez pas suffisamment de recherche alors que vous êtes payé pour ça et que vous êtes un institut public?
Oui, c'est une petite musique qui n'est pas très douce à mes oreilles, n'est-ce pas?
J'imagine.
C'est oublier qu'on est 11 000 avec... une vraie volonté de faire bouger les choses, avec un programme qui a comme objectif d'aider aux transitions.
Et quand on vous dit qu'il y a beaucoup plus d'argent du côté des privés, les privés mettent beaucoup plus d'argent, etc., que vous en recherche agronomique, ou en recherche de produits, je ne sais pas.
Mais on ne va pas opposer deux systèmes. Nous, on fait de la recherche qui est financée par... le prix par le public, justement parce que c'est des recherches que le privé ne ferait pas parce qu'il ne sera pas forcément rentable immédiatement, parce que alors dire que la recherche n'est pas aux côtés de la transformation des systèmes agricoles, on peut pas laisser dire ça. On peut pas laisser dire ça. Et monsieur était visiblement au salon de l'agriculture. Je sais pas s'il est venu nous visiter, mais il y avait nos unités expérimentales qui étaient là pour montrer ce que l'on met en œuvre, comment est-ce que on propose des transitions pour des systèmes justement plus résilients, mais aussi plus respectueux de l'environnement,
moins gourmand en énergie,
plus respectueux de la biodiversité. Et juste pour revenir sur ce modèle. On est tous d'accord, je pense, tous autour de la table, monsieur en face, comme nous trois là, pour dire que on veut un système agricole et alimentaire qui permettent aux agriculteurs de vivre, hein, qui respectent l'environnement, qui décarbonent, puis qui nourrissent la population. Et ça, c'est, on est tous d'accord. Après, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a des arbitrages qui seront faits et que, comme vous le disiez, il y a des perdants et il y a des gagnants.
Mathieu Calame,
et donc, c'est important de dire comment est-ce qu'après on accompagne les perdants. Mais voilà.
Oui, vous voulez réagir très brièvement de votre côté, François-Xavier Huppin, avant que je redonne la parole tout de suite à Mathieu Calame. François-Xavier Huppin.
Très brièvement, hein, je ne dis pas que l'INRAE ne cherche pas. Je dis qu'il faudra que l'État lui redonne plus de moyens pour continuer et avancer encore plus vite.
Est-ce que la période est vraiment à ce que l'État donne plus de moyens partout? On voit bien qu'il coupe plutôt qu'il n'en donne. On voit bien qu'on est temps d'austérité budgétaire.
Après, quand on a une volonté de vouloir faire changer le modèle et le visage de l'agriculture en 5 ans, il faut bien y mettre les moyens. Si on ne veut pas y mettre les moyens, il faut lui donner un temps plus long.
De votre côté, Mathieu Calame, qu'est-ce que vous pensez justement à la fois de ce rêve toujours un peu à l'horizon d'un retour à une sorte d'âge d'or supposé, et puis de l'autre côté, du mur que vous décriviez tout à l'heure, du climat, du mur auquel on est confronté quand on voit ce qui se passe, et en particulier le réchauffement climatique?
D'abord, sans doute rappeler que la position géopolitique de la France aujourd'hui n'est pas celle de 1962. Ça ne semblait pas poser problème à De Gaulle et à Edgar Pisani d'importer du pétrole, du gaz. Maintenant, on s'aperçoit que, et là, faut peut-être pour vos éditeurs rappeler, quand on parle de productivité, c'est une productivité toujours relative à un facteur. Il y a les productivités du sol, la productivité du travail. On a formidablement augmenté la productivité des surfaces et du travail, mais en remplaçant les hommes par des machines qu'on ne fabrique pas nécessairement.
C'est un point d'ailleurs très intéressant. Dans un article d'AOC que vous avez publié récemment, vous expliquez effectivement qu'on est en train de nourrir par les subventions agricoles, les grands entrepreneurs internationaux qui fabriquaient des moissonneuses batteuses, qui fabriquaient des tracteurs, qu'on n'ait plus d'industrie nous-mêmes pour pouvoir le faire nous-mêmes.
Quand vous êtes en Europe centrale, vous comprenez directement la direction qu'on est en train de prendre. Et de ce point de vue-là, la politique agricole commune est une politique d'inféodation, c'est-à-dire qu'on donne de l'argent à des propriétaires de plus en plus gros, voire des entreprises qui peuvent être particuliers.
Ce que vous appelez l'agriculture de firme?
L'agriculture de firme, ça c'est François Pursègle et Bertrand Hervieux qui l'appellent comme ça, et ils ont raison, mais qui est logique. C'est encore une fois le fait que l'agriculture prenne une forme capitaliste, comme dans l'industrie, je dirais que c'est la destinée manifeste. À partir du moment où on ouvre il y a rien qui fait de l'agriculture une activité humaine exceptionnelle, contrairement à ce qu'on croit. Enfin, malheureusement, voilà, ce que ça montre, c'est ça. En fait, ChemChina est le premier producteur mondial de chimie maintenant, la chimie suisse, puisque je viens de Suisse, et les propriétés maintenant de ChemChina. Demain, les drones, ils seront peut-être faits par les Turcs, etc. Et donc, en fait, on n'a plus finalement de franco-français qu'un peu de travail, mais il y en a de moins en moins puisque les machines sont là, sachant qu'après, si avec l'intelligence artificielle, les tracteurs vont être téléguidés. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? On a une plateforme de support qui transforme des facteurs de production qui sont effectivement subventionnés par la PAC, pour ensuite produire de la nourriture, dont une partie d'excédent, voire l'horizon de certains producteurs, c'est de se dire, vous voyez les producteurs belges, on va vendre nos cochons chinois. Donc en fait, on aura subventionné finalement l'aval, l'amont, pour subventionner un aval qui n'est plus européen. Donc c'est une politique d'inféodation, et je pense que la question géopolitique là-dessus est majeure, indépendamment du climat. Ça, elle se poserait quoi qu'il arrive, et qu'il va falloir se réveiller. Donc en fait, la question, c'est est-ce que le complexe agro-industriel européen est encore au service de l'Europe? Et je ne suis pas sûr.
François-Xavier Huppin, qu'est-ce que vous pensez de cette vision très pessimiste de cette géopolitique, d'une certaine manière, de l'agriculture, qui fait de vous quelqu'un qui va servir ou qui va être inféodé, comme le dit Mathieu Calame, à des grandes firmes internationales, et en particulier à ceux qui fabriquent du matériel ou qui fabriquent de la chimie pour faire le métier que vous faites? Ah, on vous a perdu. On va vous retrouver tout de suite.
Non,
vous êtes là ?
Oui, je suis là. C'est un peu pour ça que je disais qu'il faut qu'on ait un cap et qu'on veut un cap. Ça le concerne dans les grandes cultures. Il y a aussi des dictons chez jeunes agriculteurs qui disent qu'on a plus besoin de voisins que d'hectares. C'est de très vieux dictons. Alors, je ne sais pas s'ils datent du temps de M. Pisani, mais ça commence quand même à remonter.
Oui, on disait d'ailleurs que c'est ce qu'on disait au Salon de l'agriculture il y a 4 jours avec notre émission, avec des éleveurs en particulier, que le manque de voisins, le manque de bras, le manque d'aide, le manque de, disons, de collectivité autour de l'agriculteur qui aujourd'hui continue à faire son métier est tel que, effectivement, c'est un des problèmes, pas simplement les manques d'investissement, pas le manque d'argent, le manque de temps, mais aussi ce manque-là.
Oui, oui, mais pour moi, c'est un manque criant et qui est aussi extrêmement dérangeant. Quand on entendait toujours, moi, quand j'étais en lycée agricole, j'avais mes collègues de lycée qui partaient en ensilage et qui me disaient, bah, aujourd'hui, on va ensiler, on va être 15 à manger à table ce midi. Il y avait une convivialité, il y avait toujours une entraide. On n'était pas à compter le nombre d'heures de tracteurs qu'on avait fait. Voilà, s'il y avait vraiment un gros delta, on s'arrangeait autrement. Mais sinon, c'était de la main à la main. On se disait, bon, bah, tiens, tu m'as donné un coup de main, c'était toujours de l'entraide. L'agriculture est aussi devenue ce qui est devenu notre société, de l'individualisme, en grosse partie. Et moi, ce que je trouve dommage, et c'est pour ça que j'ai toujours apprécié le dicton du nombre de voisins par rapport au nombre d'hectares, parce que moi, quand j'ai des collègues qui sont en difficulté, je préfère aller les aider plutôt que de leur mettre la tête sous l'eau.
Oui, effectivement, il y a d'autres endroits où ça n'est pas tout à fait le cas. 18h41 sur France Culture, vous écoutez le temps du débat. Assiste-t-on au retour du rêve productiviste? C'est la question que nous posons à nos trois invités. Vous venez d'entendre François-Xavier Huppin, qui est agriculteur dans le Calvados. Nous sommes en compagnie de Mathieu Canham, qui dirige la fondation Charles-Léopold Meyer pour le progrès de l'homme, où il suit les questions de politique agricole, et de Cécile Détang-de-Sandre, qui est économiste et directrice de recherche à l'INRAE.
L'Europe et la France doivent produire plus. Nous devons produire plus parce que nous devons remplacer une partie des importations aujourd'hui agricoles et alimentaires par des produits qui sont plus exigeants d'un point de vue environnemental et, de par notre modèle social, plus exigeants au passage d'un point de vue social. Ça, c'est une responsabilité que nous avons. C'est une responsabilité parce que c'est aussi une manière de lutter contre le dérèglement climatique, de lutter contre l'effondrement de la biodiversité, mais également de maintenir l'activité sur notre territoire et de faire en sorte que nous ne perdions pas des points de vie sur notre agriculture, comme nous l'avons vécu dans la désindustrialisation qui a coûté des points de vie très chers à notre pays entre 1980 et 2015, ces dernières années.
France Culture, le temps du débat. Emmanuel Laurentin.
La modernisation, c'est éviter de perdre des points de vie, nous explique Agnès Pannier-Runacher, qui est ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, dans un entretien pour le podcast du journal L'Opinion depuis le Salon de l'Agriculture la semaine dernière. Est-ce que, justement, ces questions sont bien posées? On parle de souveraineté alimentaire, Cécile Détang-de-Sandre, on parle effectivement de productivisme ou de néoproductivisme, en faisant bien la différence avec ce qui s'est passé dans les années 60 avec lequel on a commencé, puisqu'effectivement, depuis, il y a beaucoup moins d'agriculteurs. Depuis, les agriculteurs qui peuvent en avoir ont beaucoup plus d'hectares, ont beaucoup plus d'investissements à faire et d'une certaine manière, sont à la fois plus riches et plus pauvres.
Alors, la souveraineté alimentaire, on la met un petit peu, c'est notre tarte à la crème actuelle, hein, on la met un petit peu à toutes les sauces.
Qu'est-ce que vous entendez, vous, quand
voilà,
vous...
Voilà, donc si on rappelle bien ce que c'était que la souveraineté alimentaire, c'est bien une capacité d'une nation à décider de son alimentation. C'est au-delà d'une question uniquement d'échange. Et on a vite fait de résumer la question de la souveraineté à une question d'autonomie et d'échange. Alors, ça c'est la première chose. La deuxième chose qui me semble vraiment important à dire, c'est qu'on ne peut pas parler souveraineté alimentaire en ne rentrant simplement que par l'offre, c'est-à-dire que par ce qu'on produit. Et on ne va pas pouvoir réfléchir notre indépendance, mais notre indépendance politique, sans réfléchir en même temps la dimension de la production et la question de la demande et, accessoirement au milieu, les pertes et gaspillages. Et donc, il faut qu'on arrive à réfléchir un système alimentaire, et pas que un système agricole, c'est bien un système agricole et alimentaire, dans lequel on arrive à articuler une production qui va répondre à un souci de protection de l'environnement, de la biodiversité, mais avec un souci de santé de nos compatriotes, et en étant sobre, et donc en étant capable de gérer nos pertes et gaspillages. Et donc c'est l'ensemble de ces trois éléments-là qu'il faut vraiment mettre autour de la table.
Ça n'est pas très simple à faire, parce que je crois, François-Xavier Hupin, que vous avez fait du maraîchage en vente directe, vous avez abandonné le maraîchage en vente directe, alors que a priori, depuis le moment du confinement, eh bien on nous a dit, voilà, c'est les circuits courts qui l'emportent, on va réussir enfin ce qu'on n'a pas réussi à faire auparavant. Avant, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça ne marche pas ?
Ce qui s'est passé, nous, de ce qu'on peut en analyser, c'est le temps que les gens consacrent à pouvoir faire leur course aussi, la disponibilité, puisque moi j'étais principalement donc légumes et je prenais juste un petit peu de produits autres, donc un petit peu de produits laitiers et de produits transformés style pâté, rillettes, et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on avait sur le magasin. Mais du coup, ça voulait dire que les personnes qui venaient acheter chez moi, fallait encore soit aller à la boucherie, soit aller dans une grande surface. Et en fait, le multitude de points à faire pour aussi se pouvoir faire l'entièreté de ses courses, c'est trouvé que c'est handicapant pour les gens. On se trouve aussi que on a les drives qui se sont développés vraiment à une vitesse folle. Et faut tous en être honnêtes, c'est relativement très pratique. On l'a tous entendu, ça évite l'achat coup de cœur. On arrive, les courses sont faites, on les met dans notre coffre, on part. On n'a pas à passer une heure ou deux dans le magasin. Et ce temps-là, on le passe soit sur du loisir, soit à faire d'autres choses chez soi, soit un peu plus au travail pour ceux qui ont cette volonté. Et moi, je le vois sur ça.
Oui, donc effectivement, le local qui l'emporte, mais en même temps, la praticité, tout cela, effectivement, ce sont des attitudes de consommateurs. Et comme nous le disait à l'instant même Cécile Détendescendre, eh bien la question, c'est comment faire en sorte que la production d'un côté puisse être adéquate avec des pratiques de consommation et la santé qui va avec, sur Mathieu Calame.
Oui, ce qu'on décrit, en fait, c'est que la société industrielle produit des individus industriels, une agriculture industrielle. Et si on veut une agriculture écologique, il faudra une société écologique. Et ça touche à l'aménagement du territoire, à la manière dont on organise le travail. Donc, vraisemblablement,
et le temps.
Donc, vraisemblablement, les acteurs majeurs qui ont été les acteurs du complexe agro-industriel sont amenés qui ont subordonné les territoires, sont amenés à se subordonner au territoire. D'ailleurs, Stéphane Le Foll avait quand même lancé les projets alimentaires territorialisée, qui était une manière de mobiliser les collectivités locales. Je pense effectivement que les acteurs clés de demain, ce seront les collectivités locales et plus que les filières.
Voilà. Mais quand vous entendez justement Agnès Pannier-Runacher, quand vous entendez Bruno Le Maire, il faut réagricoliser la France, etc. Est-ce que vous avez l'impression, justement, c'est pour ça qu'on a titré cette émission sur le rêve productiviste, que c'est un retour en arrière, que c'est un autre chemin, alors qu'il y a des chemins différents qui s'offrent?
C'est dans la continuité, c'est pas un retour en arrière. En fait, la grande question, j'invite tout le monde à relire l'adresse au congrès du président Nixon qui date de 1970 où il fait tout le diagnostic. Simplement, il pense qu'avec du technosolutionnisme, on va régler le problème. Donc exactement ce qu'on entend à l'heure actuelle ou en disant « Ah, il faudrait qu'il y ait plus de recherche ». Oui, en fait, sauf que ça fait 54 ans qu'on fait de la recherche et que les recherches ne produisent pas d'effet parce qu'elles ne sont pas reprises par les acteurs. En 1978, Poli écrit un remarquable rapport qui est très moderne, qui s'appelle « Pour une agriculture économique, économe et autonome ». Il s'est fait tomber dessus par tous les acteurs. Voilà, moi je veux dire, tout le diagnostic est fait depuis 50 ans.
Il y a un grand article dans Le Monde qui parle de René Dumont et d'autres, qui explique justement comment un autre modèle que la productivité...
Mais les leçons, Dumont était productiviste au début, les leçons de l'agriculture américaine, c'est ça date de 1949, il décrit tout, il y a Bergman qui était un jeune chercheur de l'INRA qui décrit tout. Donc maintenant, la question c'est, est-ce qu'on a envie de changer collectivement malheureusement, et autour de qui ça se fait? J'ai commencé à douter que ça se fasse autour du ministère de l'Agriculture, pour être très honnête. Mais je pense que si tout le monde confie à l'INRA une mission de prospective en disant « et on prendra ça au sérieux et on le fera après parce que nos sociétés ont besoin de savoir qui dit le vrai ». Alors évidemment, si on rentre dans un monde où la personne ne croit plus ce que disent les chercheurs, là, moi, j'ai pas de solution. Je vais être très honnête avec vous. C'est un monde religieux, il faut se trouver des grands prêtres.
François-Xavier Hupin, quand vous entendez Mathieu Calame, vous pensez que c'est un chemin possible à prendre pour vous, pour les jeunes agriculteurs que vous représentez, ou est-ce que c'est trop un changement par rapport à la pratique que vous pouvez avoir dans l'agriculture que vous pratiquez dans le Calvados ou ceux que vous représentez d'ailleurs?
Du changement, c'est ce qu'on dit. Hein. Il en faudra de toute façon, on le sait tous. Le changement passe généralement par les jeunes. Hein.
Il faut quoi ? Il faut 10 à 15 ans pour changer les méthodes de production ?
Si on veut vraiment les changer intelligemment, et j'ai beaucoup apprécié ce qui vient d'être dit sur le fait de donner les moyens à l'INRAE et qu'on donne un cap aussi à l'INRAE sur les choses et la recherche, rien que la recherche, hein, parce que de toute façon, je fais partie des personnes qui... Voilà, il y a des chercheurs qui existent. Moi, je suis agriculteur. Je lui demande pas de savoir comment labourer un champ. Moi, je lui ai pas montré comment il faut chercher. C'est son boulot, c'est pas le mien. Et moi, je vais croire ce qu'il va me trouver. Donc, produire les données, nous montrer dans quoi on peut partir, comment on peut partir, sur quoi on peut repartir et modifier l'agriculture, mais on ne pourra pas le faire en 5 ans comme c'était donné. Quand on nous dit dans 5 ans, il faut avoir diminué de 50% les animaux, il faut avoir diminué de 30 à 40% les engrais chimiques, mais déjà, rien que quand on dit ça, c'est déjà ça ne colle pas. On sait très bien que quand il y avait énormément d'agriculteurs, il y avait des animaux chez tout le monde, avec des toutes petites fermes, et on y mettait tous du fumier pour apporter ce qu'il fallait aux plantes pour être nourries. Si on enlève les animaux et qu'on enlève les engrais chimiques, il y a peut-être une solution magique, il y a peut-être quelque chose justement, si on donne du budget, que la recherche va réussir à nous trouver pour se passer ou au moins diminuer drastiquement l'utilisation des engrais chimiques. Peut-être utiliser moins de fumier ou que ça soit utilisé avec une efficience beaucoup plus importante. Mais tout ça, il va falloir que la recherche puisse nous l'amener. La recherche et l'agriculture, c'est un temps long. Quand on essaye quelque chose, c'est pour une année. On sait très bien qu'on ne va pas la tester 3, 4, 5, 10 fois dans une année. Obligatoirement, on ne pourra la tester que toujours une fois par année.
Cécile Détendescendre, je crois que tout à l'heure, on entendait donc François-Xavier Huppin nous dire qu'il cherchait un cap. Vous-même, vous avez discuté au Salon de l'agriculture avec tout un tas de personnes, une députée, une agence de l'eau, une directrice de coopérative agricole, et vous avez conclu, vous aussi, on cherche un cap. C'est l'INRAE qui va le proposer, ce cap ?
Alors, faut pas attendre. La politique de la promesse, c'est pas la politique de la maison. Ouais. Monsieur Huppin le dit très justement, il faut du temps au temps aussi. La recherche, c'est pas une solution.
Pas dans les doigts.
Non, miraculeuse. Pour autant, alors, on a, nous, affiché clairement depuis une quinzaine d'années que l'agroécologie, c'était dans cette voie-là qu'on pouvait trouver et espérer trouver une solution. Alors c'est vrai que ça devient beaucoup plus compliqué, hein, parce que c'est beaucoup plus facile de mettre des pesticides et des engrais et des intrants, mais parce qu'au moins on s'affranchit des conditions locales et c'est beaucoup plus facile à faire fonctionner. Maintenant donc nous on a des agronomes qui essayent de réfléchir et qui essayent de proposer des solutions en agroécologie, sur des changements de pratiques, de la diversification, des changements de culture, des associations de culture. Après, il faut pas non plus refuser de travailler avec de la technologie, la génétique, qui va vous à nous. On a beaucoup avancé sur, par exemple, les cépages résistants, les variétés résistantes au stress hydrique. C'est aussi un des outils à mobiliser. Et puis, évidemment, il me semble que c'est important, la politique. C'est-à-dire que le cap, il vient aussi du politique. Et c'est pas le scientifique qui donne le cap.
Bien sûr, mais on a bien compris que le cap, il était donné là, ces temps-ci, par la crise agricole, par le politique, c'est tout à fait évident. Qu'est-ce qu'il en est, par exemple, de ce débat qu'il y a, qui est utilisé par, disons, des tenants d'une agriculture plus productive, je ne dirais pas productiviste, sur les personnes qui sont passées en bio, qui sont obligées de déconvertir leur exploitation en bio parce que le bio ne rapporte plus. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela, Mathieu Calame? Est-ce que on a des chiffres chiffres là-dessus? Est-ce que, d'une certaine manière, c'est la victoire de ceux qui mettent plus d'intrants par rapport à ceux qui en mettent moins, etc., etc.?
Alors, incontestablement, il y a un fléchissement, mais après plusieurs années de très forte croissance. Après, la question qui soulève, c'est est-ce qu'on fait un changement social uniquement avec les forces du marché? Si vous regardez la politique d'industrialisation de l'agriculture, elle a été faite contre les forces du marché, et encore aujourd'hui, puisqu'on subventionne lourdement l'agriculture. Donc, si l'agriculture arrivait à un équilibre économique grâce aux seules forces du marché, le budget de la politique agricole commune ne serait pas ce qu'il est. Et ça, on le sait aussi depuis le début. Donc, maintenant, la question quand vous avez
Et c'est ce que disent la Fédération des producteurs du bio, qui disent on a demandé 500 millions, je crois, on a eu 90 millions, voilà, ça donc ne suffit pas.
C'est intimement des choix politiques, et je pense ne pas complètement partager, en matière d'agriculture en tout cas, les choix de ce gouvernement.
Mmh. Et pour vous, justement, cette question de la déconversion comme modèle ou contre-modèle, disant voilà, il y a des gens qui se sont lancés, ils ont fait des sacrifices, ils ont fait du bio, il a fallu 5 ans pour se convertir en bio, ils sont obligés de se déconvertir parce que les prix ne sont pas au rendez-vous et qu'ils ne peuvent plus tenir sur l'exploitation. Qu'est-ce que vous en pensez, Cécile Détendescendre?
J'ai envie de leur dire, il faut pas lâcher, parce que pour autant, c'est un des exemples vers lequel il faut qu'on tende. Mmh. Et à ce moment-là, là encore une fois, mais on en revient toujours à cette histoire de volonté politique. Et on a beaucoup. Juste un mot sur un outil qui est vraiment important à remettre autour de la table, c'est les paiements pour services environnementaux. C'est-à-dire qu'il faut aussi accepter de rémunérer les agriculteurs. Pour justement,
parce qu'ils entretiennent les haies,
parce qu'ils font
fossés,
un effort, parce que... voilà, pour, et au-delà du manque à gagner.
Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez de tout cela, François-Xavier Huppin, justement, et en particulier de cette amertume qu'il peut y avoir chez certains producteurs de bio, sans qu'on sache d'ailleurs s'ils sont très nombreux ou pas.
On
n'a pas de chiffres encore, qui sont revenus sur une production plus traditionnelle parce qu'ils n'étaient pas assez payés pour cela.
Alors nous, sur les quelques chiffres qu'on a réussi à avoir sur certains secteurs, on est à 0,1 entre les conversions et les déconversions.
C'est très peu.
Et... Oui, mais ça veut dire qu'il y en a autant qui se sont convertis que qui se sont déconvertis.
C'est ça.
Donc, en fait, c'est énorme. Et moi, ça me choque. Après, on a eu aussi une volonté d'envoyer des gens dans du bio-économique. Et moi, le bioéconomique, je suis désolé, ça ne marche pas. Les personnes qui décident de passer en bio, c'est qu'ils en ont la volonté, c'est qu'ils y trouvent un réel intérêt. Et il faut encore être meilleur techniquement pour passer, surtout sur le... Moi, je parle encore plus sur le secteur grande culture, parce que c'est encore beaucoup plus compliqué sur certaines phases. Et il faut être extrêmement bon techniquement pour réussir à passer en bio. Et quand on se dit qu'on va envoyer quelqu'un dans le bio parce qu'il va vendre ses céréales plus chères, il va y gagner plus d'argent, on l'envoie au casse-pipe. Mmh. C'est négocié. Et alors, le fait que le marché du bio s'effondre complètement et toutes les personnes qui sont, comme vous l'avez si bien dit, qui se sont donné du mal pour se convertir, pour passer toutes les étapes et qui derrière la filière œuf en ce moment est encore plus dans les difficultés et j'en passe. Mmh. Et bien sûr, il y a pas qu'elle. Ça, c'est dramatique parce que c'est quand même des personnes qui essayent des nouvelles techniques, qui décident de changer entre guillemets comme le terme qu'on emploie, qui changent de logiciel. Et au final, derrière, l'économique ne suit pas. On s'aperçoit bien que il y a eu aussi une volonté de produire massivement du bio pour faire baisser le prix. Mmh. Mais ça fera pas baisser le prix au consommateur.
Mathieu Calame, sur ce point, on termine là-dessus.
Oui, de toute façon, on va rentrer dans une période où il va falloir avoir une économie régulée, c'est-à-dire qu'on attend le Keynes vert.
On attend l'Office national du blé pendant le Front populaire, c'est ce que vous voulez dire.
Concrètement, et d'autant plus parce que le changement massif, c'est qu'on a fait de la surproduction de grains qu'on a de plus en plus transformés en viande et en lait. On remplace des produits qui se conservent bien par des produits qui se conservent mal, et ils ont une très forte élasticité prix, c'est-à-dire qu'un simple excédent fait des effets énormes sur la valeur, puisque conserver du lait et de la viande, c'est très coûteux.
Merci à tous les trois, en tous les cas. On a vu quelques pistes qui apparaissaient à l'horizon. Je ne sais pas si c'est le rêve ou si c'est le cauchemar, mais en tout cas, on voit quelques pistes. Merci à vous, François-Xavier Huppin, d'avoir été avec nous en tant qu'agriculteur dans le Calvados depuis votre entreprise dans le Calvados, votre entreprise, votre ferme. Parlons non pas en firme, mais en ferme. Cécile Détendescendre, vous êtes économiste, et quelle politique agricole commune pour demain, c'était avec Hervé Guyomard chez Quae. Mathieu Calame, vous êtes ingénieur agronome et vous dirigez la fondation Charles-Léopold Meyer pour le progrès de l'homme, et c'est la révolution agroécologique, se nourrir demain au seuil. Le temps du débat a été préparé ce soir par Fanny Richet, par Roxane Poulain, Juliette Mouélix, Anouk Sevenot, Stéphanie Villeneuve, réalisé par Laurence Malonda, avec à la technique Sébastien Royer.